Ce matin, il s'agit du psaume le plus connu de la Bible, c'est-à-dire le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Alors c'est ça qu'on va partager ce matin. Ouvrons nos Bibles dans les psaumes au numéro 23. Et regardez ce qu'il est dit. C'est un cantique de David. Et même si on n'a pas la musique originale, on a notre version en français qu'on vient de chanter juste avant. C'est merveilleux de pouvoir repasser ces choses dans nos cœurs et de laisser la parole du Seigneur faire son œuvre en nous. On ne s'en rend pas compte, mais quand on chante des chants qui sont basés sur la Bible, il y a quelque chose qui se passe dans les lieux spirituels et qui se passe aussi au fond de notre cœur. Ça, nous le savons parce que la Bible nous le dit, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Regardez le psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous y croyez à cette parole qui nous dit que jusqu'à la fin de nos jours, nous pouvons habiter dans la maison de l'Éternel. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous prendre un matelas et venir le mettre dans la maison qui est au-dessus? C'est ça, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie? Non. Bien sûr que non. C'est quelque chose de spirituel dans notre cœur. Nous avons accès à la présence du Seigneur. Et j'aime ce psaume 23, et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'il est le plus connu, c'est parce qu'il nous donne une image merveilleuse. Vous savez, Dieu, il aurait pu venir se présenter, donner cette idée à David d'écrire un chant en disant, voici, l'Éternel est mon président. L'Éternel est mon patron. L'Éternel est mon chef d'entreprise. Mais Dieu n'a pas voulu se montrer de cette manière-là. À un autre moment, c'est écrit qu'il est le roi des rois, on est d'accord. Mais là, Dieu voulait nous montrer une portion, une facette de sa personne, qu'il était celui qui était comme un berger. Ça veut dire qu'il était celui qui remplit d'amour. Demandez, allez parler avec des personnes qui ont fait le travail de berger, et vous allez voir que c'est des personnes qui sont obligées d'être douces, qui sont obligés d'être soigneuses, qui sont obligés de déborder de l'amour, parce que les brebis, une des caractéristiques, c'est elles ont peur de tout très facilement. Et si le berger il vient avec arrogance et il donne des coups de pied à tout le monde, eh bien, les brebis vont pas avoir confiance à lui. Mais Dieu a choisi de montrer cette image qu'il est l'Éternel, notre berger. L'Éternel, notre berger. Et si Dieu est le berger de nos vies, ça veut dire une chose qui en découle automatiquement, c'est que nous sommes les brebis. Est-ce que ça vous plaît d'être comparé à une brebis? Nous, on aime bien, peut-être, je sais pas, les emblèmes des pays, vous savez, c'est le lion, c'est l'aigle, c'est des choses comme ça, le coq qui est fier, mais une brebis. Et pourtant, l'image qui est là, elle nous montre tout à fait ce que nous avons besoin d'entendre. L'image que nous avons besoin de fixer dans notre cœur. Nous sommes une brebis. Et David, qui est en train d'écrire ce psaume, vous savez que David était bien placé parce que il était le roi d'Israël, mais il n'a pas fait les écoles nationales supérieures de royauté de l'époque. Vous savez, c'était quoi sa formation? Berger. Et justement, le psaume 78 nous dit que Dieu a pris David derrière les brebis. Dieu a pris David parce qu'il avait vu ce jeune homme qui était là, qui faisait ce métier tout simple, mais qui avait un cœur rempli d'amour, un cœur qui prenait soin de ses brebis, un cœur qui défendait aussi. Il y avait une notion de force aussi dans le côté du berger, surtout à l'époque d'Israël, parce qu'il y avait des ours, il y avait des lions, il y avait des bêtes sauvages qui étaient là, qui attaquaient le troupeau, et le troupeau c'était tout pour le berger, donc il fallait qu'il mette son cœur pour le surveiller. Il y en a qui étaient juste les mercenaires, qui dès qu'ils voyaient la bête sauvage, ils s'enfuyaient. Mais David, lui, c'était un berger qui poursuivait même le lion. Et il lui arrachait de la gueule la brebis. Vous imaginez faire ça? Voilà pourquoi Dieu l'a choisi à lui. Parce qu'il donnait une bonne image de ce que le cœur de Dieu envers chacun d'entre nous. Nous sommes ses brebis. Ça veut dire que Si David, le roi d'Israël, n'hésite pas à se comparer à une brebis, ça veut dire qu'il faut nous-mêmes accepter de nous voir faibles, de nous voir petits par nous-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se voir plus faible que l'on est. Hein, c'est pas s'auto-critiquer, c'est pas ça. Mais c'est réaliser qu'à un moment donné, on a des limites. Malgré toutes les qualités et la force que l'on peut avoir, à des moments donnés, on est limité. Il y a des moments donnés, les choses nous échappent. Et à des moments donnés, on ne peut pas faire certaines choses. Mais on a un appui sûr et solide dans la personne de notre Dieu, qui est le bon berger. J'accepte, si je suis une brebis, j'accepte de dépendre de quelqu'un qui est plus grand que moi. Et laissez-moi vous dire que je ne parle pas des autorités. Bien sûr qu'il faut respecter les autorités, comme la Bible dit. Et celui qui est plus grand que nous tous, tous les hommes de la terre, c'est le Seigneur Jésus. Que fait le berger? Quelles sont la mission du berger? Et qu'est-ce que ça nous apporte à nous? On va le résumer en trois mots tout simples. Il nous donne la provision, il pourvoit. Il nous donne la protection, il nous défend. Il nous donne la profusion, il nous donne en abondance. Voilà ce que fait le berger, de manière naturelle et de manière spirituelle aussi, ce que fait Dieu envers nous. Alors on commence avec cette réalité que Dieu est celui qui veut nous donner sa provision divine. L'Éternel pourvoira à tous nos besoins, nous dit la parole. Il pourvoit, le berger qui est digne de ce nom, il pourvoit, il prend soin de ses brebis, il leur donne tout ce dont elles ont besoin. Et c'est ce que nous voyons qui est là décrit dans ce passage, dans les premiers versets. Je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Il peut y avoir certaines choses terrestres qui nous manquent, mais le Seigneur nous promet que de manière spirituelle, et même des fois de manière naturelle, même dans les aspects concrets de nos vies, il est celui qui veut pourvoir. Il est celui qui veut nous donner. Et j'avais cette pensée de quelqu'un peut-être qui a eu des difficultés avec son père, qui n'a pas eu le père qu'elle aurait aimé avoir, cette personne. Si vous êtes en manque à ce niveau-là, mais Dieu peut devenir un père céleste pour vous, parce qu'il est celui qui est notre père. Si votre père a été méchant, si votre père a été dur, si votre père a fait des choses qu'il ne devait pas faire, Dieu est celui qui veut être votre père parfait. Ça ne veut pas dire que vous abandonnerez votre père, mais il vous donnera cet amour et cette grâce, ce pardon dont vous avez tant besoin. Lors du dernier camp de jeunes, je l'ai raconté cette semaine, mais j'aime bien donner ces petites anecdotes qui montrent combien Dieu prend soin de nous. Il y avait un grand jeu qui était organisé. Il y a eu des moments spirituels, des réunions, la semaine dernière. Et puis, il y a eu un grand jeu qui a été organisé. Et à un moment donné, je ne sais plus c'était quoi le jeu, parce que j'étais pas là quand ça s'est passé. Mais c'était une histoire avec une grosse roue de tracteur. Et je ne sais pas s'il devait tirer, ou Sarah elle vous expliquera c'était quoi le jeu, parce qu'elle y était. Et en tout cas, à un moment donné, la grosse roue de tracteur, elle est tombée sur la jambe d'un gars qui était là. Le gars qui était là, c'est un militaire, c'est un gars qui est costaud. Donc il a l'habitude d'avoir mal, il a l'habitude de la douleur. Mais là, avec la grosseur de la roue et sur sa jambe, ça lui a fait très mal. Du coup, jusqu'à la fin de la soirée, pendant toute la journée, tout le restant du jeu, il a fait que boiter. Et puis, il y a la réunion qui est arrivée, on a passé un temps béni devant le Seigneur. La réunion est passée. Et à la fin, ce jeune homme, il continuait de boiter. Alors le pasteur qui était là, il a dit, si tu veux, on va prier pour toi. Alors, devant ce besoin qui était évident, ils ont prié tout simplement. Et ils lui ont dit, alors, est-ce que ça va mieux? Et il dit, non, j'ai encore mal. Et alors, il a dit, on va encore prier, on va encore persévérer. Et là, est-ce que ça va mieux? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça a totalement disparu, la douleur. Le Seigneur vient de me guérir. Et voilà ce qui se passe quand on met nos besoins devant le Seigneur avec foi et on croit qu'il est puissant pour intervenir. Et ça, s'il s'agit d'une douleur dans la jambe, c'est déjà très bien. Mais Dieu est celui qui peut pourvoir à tous nos besoins selon la richesse de sa grâce. Est-ce que vous avez des besoins ce matin? Est-ce que dans votre cœur, il y a quelque chose qui dit, Seigneur, oui, tu vois le besoin qui est là, marqué. Mais Seigneur, je te fais confiance, parce que je sais que toi, tu as la puissance. Alors des fois, c'est instantané, c'est comme ça sur le coup, parce que notre Dieu est tout puissant. Des fois, ça progressivement, peu importe, en tout cas, le Seigneur est celui qui guérit, qui fait du bien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le berger, c'est celui qui aime nous amener dans ces endroits qui nourrissent vraiment notre âme. Vous savez qu'il y a des choses dans la vie, des choses que l'on fait, des choses que l'on lit, des choses que l'on voit qui nourrissent notre âme, mais qui n'ont aucune saveur. Je vous donne un exemple. Si vous écoutez les plus beaux discours d'un politique. Il y en a qui parlent avec un verbe incroyable, qui ont des facilités pour s'exprimer, des hommes politiques. Mais est-ce que vous êtes nourri par les discours des hommes politiques? Ça peut, à un moment donné, toucher votre cœur, vous donner de l'espoir en disant « Celui-là, ça sera un merveilleux président. » Mais on sait avec l'expérience que souvent, c'est beaucoup de paroles en l'air. Et quand on regarde au Seigneur et qu'il nous parle, quand on se laisse nourrir par la parole de Dieu, là, on voit la différence. Parce que quand Dieu dit un mot, alors c'est quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est solide, quelque chose qui est fondamental. Si Dieu vous a donné une promesse, une parole, un jour, peut-être il y a des années en arrière, que ça s'est pas encore accompli, laissez-moi vous dire que vous pouvez attendre avec confiance. Ça va se réaliser parce que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il use simplement de patience. Alors il y a des fois, nous on est pressés, on voudrait que ça aille vite. Mais si le Seigneur il a dit quelque chose, c'est obligé, il va le faire. Et nous pouvons bâtir notre vie sur ses promesses parce que ce sont des choses solides. Il me conduit auprès des eaux paisibles, littéralement des eaux de repos. On est dans une époque où il y a du stress partout. On est stressé dès qu'il y a quelque chose à faire, hop, il y a du stress. C'est bien un petit peu d'être stressé, un petit peu quand même. C'est autre chose d'être mou et autre chose d'être un peu stressé, d'avoir le cœur à l'ouvrage à ce qu'on fait. Mais des fois, on se laisse tellement stresser par les événements qu'on en devient inquiet, qu'on en devient à ne plus dormir. Le Seigneur est celui qui nous amène près des eaux paisibles. Les eaux de repos. Il y a un lieu dans la présence de Dieu où les eaux de repos coulent et notre cœur peut être abreuvé de cette eau-là, de paix, cette eau-là de calme, cette eau-là de confiance dans la présence du Seigneur. Combien c'est bon quand on se tient devant lui et qu'on laisse saper, envahir notre être, nous restaurer, nous faire du bien. Il restaure notre âme. Si le chemin nous a blessés, si on a buté sur un caillou, si quelqu'un nous a dit une mauvaise parole, il est celui qui restaure notre âme. Il est celui qui fait du bien. Il est celui qui nous soigne là où on est blessé. Il est celui qui met sur notre vie son pansement du pardon et qui nous donne cette capacité même de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Quelle joie, quelle merveille quand nous acceptons de laisser le Seigneur remplir notre cœur de son pardon. Il y a des personnes qui ont laissé des situations empirer et grandir de non-pardon et qui vivent après aux dépens de cette situation, mais quand elles changent les choses. Et combien de fois j'ai vu des personnes dire « Seigneur, j'ai besoin de toi pour m'aider » quand elles acceptent de vivre ça, de laisser le pardon de Dieu guider leur vie, alors il y a quelque chose qui se passe, un changement, une transformation, une bénédiction, la faveur de Dieu qui se manifeste sur leur vie. Il me guide dans les sentiers de la justice. Je le disais encore il y a quelque temps, on est entouré d'injustice autour de nous. Mais Dieu est celui qui nous guide dans les sentiers de l'injustice. De la justice, pardon. J'ai dit le contraire de ce que je pensais. Dieu nous guide dans les sentiers de la justice. Il nous aide à marcher avec cette vie qui est de plus en plus droite. Bien sûr qu'on n'est jamais parfait, mais le Seigneur nous aide à grandir dans la perfection, nous aide à nous corriger, nous aide à avancer. Et s'il y a des travers dans nos vies, nous savons, parce que nous avons un Dieu qui pourvoit tous nos besoins, nous savons qu'il va nous donner la puissance pour changer, pour être transformé. Si quelqu'un ne maîtrise pas sa colère, il est quelqu'un qui se met tout le temps en colère, le Seigneur est capable de vous changer, de vous transformer. Vous le savez que c'est vrai ? Il y a des hommes qui étaient des gens coléreux, méchants, qui venaient à l'église juste pour embêter, pour déranger la réunion. Et quand ils ont été touchés par la présence de Dieu, ils sont devenus des agneaux, c'est le cas de le dire. Des gens doux, paisibles, parce que Dieu a touché leur cœur. La colère a été enlevée. Des fois, on cherche des moyens que les personnes à côté de nous ne soient plus en colère. On voudrait nous trouver des arguments, faire toutes sortes de processus. Mais laissez ces personnes s'approcher du Seigneur, vous allez voir comment ça se passe. Notre Dieu est celui qui nous guide dans les sentiers de la justice. Il est celui qui nous donne la protection. Le berger est celui qui défend ses brebis contre les attaquants. Il y en a des attaquants, il y en a des ennemis, il y en a des assaillants autour de nous qui veulent assiéger nos vies pour nous faire tomber. Il y a un ennemi de nos âmes qui est fervent dans son travail malheureusement et qui fait des dégâts autour de nous. Et si on ne veille pas, si on ne reste pas dans la présence du bon berger, alors on risque de se laisser conduire sur de mauvais chemins. Vous savez que les sentiers de la justice, comme nous le dit ce psaume, ça nous conduit parfois dans la vallée de l'ombre de la mort. Des fois, le Seigneur permet que nous traversions cette vallée qui est là ténébreuse, noire, cette vallée où on a l'impression que la mort plane autour de nous, ce temps d'épreuve qui dure et qui dure indéfiniment, semble-t-il. Mais si nous avons dans notre cœur l'assurance que Jésus est présent, alors toutes les choses changent. On a beau être dans la vallée de l'ombre de la mort, si on sait que notre Seigneur est présent avec nous, alors il nous donne cette capacité d'être rassurés. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et la semaine dernière, nous accueillons le pasteur Mathieu Thoman à ce camp de jeunesse. Ce pasteur, à un moment donné, il a eu sa vie qui était totalement centrée sur la drogue. Ici, il nous a partagé son témoignage. Et à l'âge de 12 ans, déjà, il a commencé à fumer sa première cigarette. Et puis, il a commencé à tomber dans un engrenage. Au début, il disait « je maîtrise ». Et puis, petit à petit, c'était plus la cigarette, c'était la marijuana. Et puis après, c'était des drogues de plus en plus dures, le cannabis, l'alcool, même des médicaments. Et il a commencé d'être dans ce cercle vicieux qui a fait que dans sa vie, son caractère justement commençait à exploser. Il ne supportait plus les personnes qui l'entouraient, même ceux de sa famille. Il n'arrivait plus à se contrôler, à se maîtriser à cause de la drogue. Des fois, il était en manque. Des fois, il était dans toutes sortes de trafic. Pendant 7 ans, sa consommation est devenue quotidienne et même exponentielle. Et les conséquences se sont traduites par un caractère irritable. Il se mettait facilement en colère. Et puis il a commencé les vols, la violence. Il a commencé à être exclu de l'école. Il a commencé à traîner avec les amis, etc. Vous imaginez la vie des quartiers. Ça, c'était à l'île de la Réunion que ça s'est passé. Et puis en octobre 2003, il y a sa sœur et sa maman qui étaient chrétiennes et qui l'ont inscrit, sans qu'il le sache, à un camp de jeunesse. Mais comme il savait que sa maman, elle travaillait dur pour pouvoir faire vivre tous ses frères et sœurs, je ne sais plus combien ils étaient, mais ils étaient nombreux, elle travaillait dur, elle était toute seule, alors c'était pas évident pour elle, et il savait qu'elle avait payé pour l'inscrire à ce camp, donc il a dit « je vais y aller ». Bon, ils ont engagé des frais pour moi, donc je vais y aller quand même. Et dans ce camp, le Seigneur l'attendait au rendez-vous. Il dit « j'ai entendu la bonne nouvelle que Dieu avait pour ma vie ». Et mon cœur fut profondément touché par son amour. Étant sincère avec moi-même, je savais qu'entre Dieu et moi, il y avait un fossé. Ce jour-là, j'ai fait le choix personnel d'accepter Jésus-Christ comme celui qui a tout accompli pour que je sois pardonné et réconcilié avec Dieu. Et cet homme, ce jeune homme à ce moment-là, a été touché, transformé par la présence du Seigneur quand il a accepté d'ouvrir son cœur. Et le résultat, c'est qu'il est sorti de cette réunion avec le désir de le servir. Ça a pris du temps, mais Dieu a permis qu'il puisse faire un institut biblique des années après et qu'il puisse être devenu pasteur. Il est actuellement le pasteur à l'église à Auxerre. Et quand il est sorti de cette salle, de ce moment de jeunesse, ses frères et sœurs, ils l'ont regardé, ils ont dit « mais Mathieu, ton visage a changé, on dirait que t'es quelqu'un d'autre ». Voilà ce qui se passe quand on laisse la présence de Dieu envahir notre être. Et toutes ces dépendances à la drogue, à la cigarette, à l'alcool, ont été totalement enlevées de sa vie. Vous savez qu'il y a des choses qu'on dit dans nos vies, « ah, je maîtrise ». Mais à un moment donné, on en devient esclave. Mais on a un Dieu qui libère. On a un Dieu qui nous protège de ces choses-là qui veulent nous asservir. C'est le Dieu de délivrance, l'Éternel, notre berger, que son nom sera béni. Il est là avec sa houlette, il est là avec son bâton, ce sont des images de tout ce que Dieu déploie pour nous garder. Vous savez que la houlette, ça permettait au berger d'attraper la brebis si elle allait trop loin, ça lui permettait de la saisir, parce qu'il y avait un petit crochet comme ça qui permettait d'attraper la brebis. Et combien c'est bon quand on se laisse saisir par la grâce de Dieu dans notre vie, quand on le laisse nous attraper, quand on dit « Seigneur, oui, je crois que tu peux faire quelque chose pour moi par la foi ». Quand on fait cela, alors sa grâce nous rassure, sa grâce nous restaure. Il installe une table vis-à-vis de ceux qui m'attaquent. « Tu oins d'huile ma tête », c'est une autre version qui dit la même chose. Hein. Est-ce que vous aimez être à table? Imaginez que vous êtes à table, en train de manger, et puis vous voyez devant vous qu'il y a des adversaires en fait. Des gens qui sont là avec des épées ou des fusils. Et Dieu qui est là, il vous dit « j'ai la solution pour toi, il faut que tu te mettes à table ». Vous allez dire « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que le fait de se mettre à table va me protéger de mes ennemis ?» Vous n'êtes pas posé la question. Moi, quand j'ai lu ce psaume, j'ai dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et en fait, tout simplement pour nous montrer que c'est lui qui combat pour nous. Nous, nous devons avoir la foi de prendre du temps avec lui. Nous le mettons à table parce que nous savons que Dieu a préparé pour nous toutes sortes de bonnes choses pour nos vies spirituelles. Nous prenons du temps à lire sa parole. S'il y a des ennemis, nous prenons du temps à prier et nous prenons pas du temps à les attaquer. Nous prenons pas du temps à essayer de nous défendre. Nous prenons du temps à chercher la face de Dieu et à le laisser lui faire son travail pour que nous puissions être gardés, protégés. Ne vous inquiétez pas si le Seigneur vous met à table devant vos ennemis. Ça veut dire que c'est lui qui va s'occuper de vos ennemis. Ça veut dire que c'est lui qui va combattre pour vous. De la même manière qu'il a fait pour le peuple d'Israël qui était là, coincé devant la mer Rouge et qui avait des ennemis qui étaient en train de courir après pour pouvoir les rattraper, en refaire des esclaves. Le Seigneur a combattu pour eux. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit ? Mais vous, gardez le silence. La foi, oui, mais surtout gardez le silence. Il y a des moments où notre foi s'exprime par le silence. Il y a des fois, on est là, Seigneur, mais pourquoi tu permets ceci? Et le peuple d'Israël a cette tendance à dire, mais on était bien en Égypte, c'était ceci, c'était cela. Gardez le silence, regardez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Est-ce que ça vous intéresse pas de vivre ces choses-là? Seigneur, je veux fermer ma bouche par rapport à toutes les plaintes et les murmures que je pourrais dire. Je veux ouvrir ma bouche par contre pour manger à ta table, à la table du roi, et je veux, Seigneur, voir la délivrance que tu vas m'accorder. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est une pratique qui se faisait à l'époque quand on avait un invité, on lui versait du parfum dessus et on lui faisait déborder sa coupe de parfum et on prenait soin de l'invité. Ça veut dire qu'on voulait l'honorer et Dieu est celui qui veut nous honorer aussi. Il est celui qui honore celui qui l'honore à lui. Si vous respectez Dieu, laissez-moi vous dire qu'il va s'occuper de vous pour vous faire du bien, pour vous bénir. Si vous n'avez rien à faire avec Dieu, si vous n'êtes pas intéressé à lui plaire, laissez-moi vous dire que le Seigneur va vous laisser dans vos choix. Il ne va pas vous forcer. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui force, il est un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui est rempli d'amour et qui veut manifester sa grâce envers chacun de nous. Il donne avec profusion. Il nous donne sa provision, il nous donne sa protection, mais il donne aussi avec profusion, avec abondance. Je vous invite là à aller dans Jean chapitre 10. C'est la suite, on pourrait dire, du psaume 23, Jean chapitre 10. C'est Jésus qui parle de cette image du bon berger. Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre la porte et les brebis entrent sa voix. Il les appelle par leur nom. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Amen. Le Seigneur est celui qui nous appelle par notre nom. Je ne sais pas si vous avez posé la question à Monsieur Macron, si vous avez eu l'occasion de le voir, en lui demandant « Est-ce que vous connaissez mon prénom ?» Posez-lui la question si vous avez l'occasion. Et qu'est-ce qu'il va vous dire ? Ben non. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un, pour un président, de connaître le nom de tous ses administrés, tous les citoyens du pays ? C'est pas possible. Même si on a une excellente mémoire, ce n'est pas possible de connaître le nom de 60 et quelques millions d'habitants. Mais Dieu est celui qui connaît chacune de ses brebis par son nom. Il connaît son histoire personnelle. Il connaît le contexte dans lequel elle a vécu. Il nous connaît chacun par notre nom. Et il sait ce dont nous avons besoin. Et il est celui qui veut nous manifester avec profusion. Profusion, ça veut dire l'abondance. Ça veut dire un surplus d'amour qui veut nous manifester. La Bible nous dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Il y avait cette réalité dans le peuple d'Israël. Il y avait un grand sacrificateur. Il avait une tenue spéciale. Et sa tenue, c'est qu'il avait en particulier le nom de toutes les tribus d'Israël qui étaient gravées sur son vêtement, particulièrement sur son cœur. C'est l'image de Dieu qui porte sur son cœur chacun de nos noms. Et combien c'est bon de savoir qu'on n'a pas un Dieu qui est lointain, un Dieu qu'on ne peut pas accéder, mais c'est un Dieu qui nous connaît par notre nom et qui sait ce matin ce que toi, mon frère, ma sœur, mon ami qui est là, ce que toi tu as besoin. Et il est capable de voir dans ton cœur. Si tu vas crier à lui, Seigneur, j'ai besoin, oui, que tu fasses ceci pour moi. J'ai besoin que tu me manifestes ton amour avec abondance. Les brebis connaissent sa voix. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, au verset 4, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les brebis sont rassurées quand elles entendent la voix de leur berger. Quand c'est un étranger qui parle, elles s'enfuient. Mais quand c'est leur berger. Et des fois, on a des chiens qui sont comme ça. Mais par contre, ils s'enfuient pas, ils mordent. C'est différent. Mais quand ils connaissent la voix, il n'y a pas de souci. Quand ils reconnaissent la personne à l'oreille, clac, c'est bon. Ils viennent faire les câlins. Et quand ils connaissent pas, ils mordent. Mais les brebis doivent apprendre à discerner la voix du bon berger. Est-ce que dans ces moments, dans tous les moments où vous tenez devant Dieu, vous êtes capable d'entendre cette voix qui est au fond de votre cœur, qui vous dit « Mon enfant, je t'aime, je suis le bon berger, tu es ma brebis, et je veux prendre soin de toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, mais ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, c'est ce que nous dit sa parole. » Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et c'est l'image de l'ennemi de nos âmes, mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait même avec petitesse. » Non, pardon. Avec abondance. On pourrait dire avec profusion. L'abondance, ce n'est pas juste quelques gouttes de la bénédiction de Dieu, mais c'est une cascade immense. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des cascades. Moi, j'ai eu l'occasion en Afrique d'aller même me mettre sous la cascade. Et quand on se met sous une cascade, l'eau qui tombe, il y a une certaine gravité qui est là, qui fait que s'il y en a beaucoup en plus, on a du mal à tenir sous la cascade parce que c'est des trombes d'eau qui nous tombent dessus. Et limite, on est obligé presque de se courber un petit peu pour pouvoir supporter. Et c'est exactement ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais il veut pas faire ça pour nous mettre un fardeau. Il veut faire ça pour nous restaurer. Parce que quand on reçoit la profusion de la grâce de Dieu, alors ça nous donne des forces pour supporter ce qu'on ne pourrait pas supporter normalement. À un moment donné, il y a un maréchal de Napoléon qui lui était totalement voué, qui le considérait presque comme un dieu, ce maréchal envers Napoléon, et dans un combat, il fut mortellement blessé. Et comme il sentait que sa fin approchait, il sentait ses forces diminuer, il était dans sa tente, il a demandé qu'on fasse appeler l'empereur. Alors l'empereur est venu, et il a vu cet homme, et cet homme a commencé à lui demander « Napoléon, sauve-moi, sauve ma vie !» Alors Napoléon l'a regardé un moment, mais il voyait que la blessure était très grave, et il voyait que lui, de toute façon, c'était un empereur, mais c'était pas un médecin. Et même les médecins lui avaient dit, c'est fini pour lui. Alors il a regardé cet homme, et puis à un moment donné, il a tourné la tête. Et il a commencé à marcher vers la porte, vers l'entrée de la tente. Et alors qu'il voyait son empereur partir et qu'il sentait ses forces l'abandonner, cet homme, il a crié encore plus fort, « Napoléon, sauve-moi ! Napoléon, sauve-moi !» Et Napoléon est sorti de la tente, et cet homme, il est mort. Cet homme s'attendait à ce que son empereur, qui était tout pour lui, puisse lui venir au secours. Mais Napoléon, c'était quelqu'un qui est comme nous. Il avait beau avoir ses qualités et ses défauts, il était un homme limité. Mais si vous criez aujourd'hui dans votre cœur, « Seigneur, sauve-moi !» Laissez-moi vous dire que lui, par contre, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, notre berger, il a la puissance pour vous sauver. Il a la puissance, si vous êtes en train d'enfoncer dans des circonstances, pour vous en sortir. Pierre, à un moment donné, il a dit « Seigneur, sauve-moi » parce qu'il était en train d'enfoncer dans la mer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a saisi par la main et l'a remis dans le bateau. Jésus l'a gardé, Jésus l'a protégé parce que Pierre était sa brebis. Pierre était son enfant. Pierre était quelqu'un qui avait fait la paix avec lui. Le Seigneur vous invite ce matin. Le Seigneur nous invite à chacun à faire de nos vies ce temple où il va pouvoir venir habiter, où on va dire « Seigneur, oui, je veux me laisser conduire et diriger par toi. » Est-ce que ce matin, vous êtes capable de dire, en regardant Dieu face à face, de manière spirituelle, « Oui, Seigneur, tu es mon berger, je suis ta brebis. » Est-ce que ce matin, vous êtes capable de dire « Seigneur, j'ai l'assurance que tu ne m'abandonneras jamais parce que je suis à toi. » Si ce n'est pas le cas, c'est encore possible. Dites-lui, Seigneur, je veux que tu sois mon berger. Je veux vivre comme David avait cette assurance. Je veux avoir aussi cette assurance dans mon cœur. On va fermer les yeux.